L'heure des femmes, d'Adèle Bréau, une fresque résolument romanesque, au livre de poche.
RTL Foot, présenté par Eric Silvestro.
Pas de fête du travail ce soir pour le PSG. Les Parisiens ne doivent pas chômer sur la pelouse de Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Borussia PSG, un choc à vivre en intégralité dans RTL Foot dès 20h.
RTL Foot.
RTL. RTL 15h. Les trois infos qui comptent sur RTL, c'est avec vous Vincent de Rosier, bonjour.
Bonjour Jean-Alphonse et bonjour à tous. Des milliers de personnes défilent en ce moment pour ce 1er mai. 150 000 manifestants sont attendus dans tout le pays aujourd'hui avec différents mots d'ordre et motivations. Les salaires, la paix, Gaza ou encore une Europe plus protectrice. À Saint-Etienne, la tête de liste du PS et de place publique, Raphaël Glucksmann a été empêché de rejoindre le cortège après des jets de peinture et des invectives de quelques dizaines de militants. Il s'en est expliqué sur RTL en promettant, je cite, de ne jamais baisser les yeux face à ces gens dangereux pour notre démocratie. À Paris, la manifestation est partie de la place de la République il y a une heure. La numéro 1 de la CGT, Sophie Binet, s'est exprimée avant de débuter la marche et dans son viseur, la réforme de l'assurance chômage voulue par le gouvernement.
Dire et redire notre opposition à commencer par cette réforme de l'assurance chômage qui est injuste et violente. C'est la réforme de trop. Ça fait autour de 5 réformes de l'assurance chômage qui ont été imposées en 7 ans. C'est beaucoup. Elles n'ont même pas eu le temps d'être évaluées. C'est notre travail qui fait tourner la société, que ce travail doit être respecté, reconnu. La nouveauté de cette année, c'est qu'on constate que jamais l'opinion n'a été aussi défavorable à une réforme de l'assurance chômage et que le gouvernement a annoncé qu'il allait faire cette réforme par décret. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée pour faire sa réforme. Nous constatons encore une fois que le gouvernement est minoritaire et qu'il est de plus en plus minoritaire pour ses projets de casse sociale.
Sophie Binet de la CGT avec Mathilde Piquet à Toulouse. Ils étaient 3000 selon la préfecture, 8000 selon les organisateurs à Nantes, entre 4 et 5000 personnes à Lyon. 6500 manifestants ont défilé toujours selon la préfecture et au moins 17 personnes ont été interpellées après des dégradations ou des tensions avec les forces de l'ordre. Quelques violences également dans le centre-ville de Nantes. Des manifestants qui se revendiquent du mouvement Antifa, habillés de noir et casqués, ont attaqué des vitrines, une banque, un supermarché et un magasin de vêtements. Un homme de 20 ans interpellé à Toulon. Il est soupçonné d'avoir volontairement foncé avec son véhicule sur un groupe de personnes après une altercation dans une boîte de nuit. Une personne est morte, deux autres ont été blessés. Une enquête est ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat. L'actualité internationale avec le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui est arrivé au Caire en Égypte pour une visite inopinée avec l'un des médiateurs dans ce conflit. Et ce, alors que les efforts s'intensifient pour tenter de parvenir à une trêve entre Israël et le Hamas. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a lui rencontré Benjamin Netanyahou. Il a redit une nouvelle fois l'opposition de Washington à un assaut israélien sur la ville de Rafah. La météo.
Pour profiter de l'été, Batiman, spécialiste de la protection solaire, installe chez vous store pergola brise-soleil sur mesure et motorisé.
La météo de demain avec des pluies et des averses qui tombent sur les deux tiers nord-est, pluie également sur le Languedoc. Le ciel va se dégager sur l'Atlantique. Demain matin, il fera 11 à Lille, 9 à Nantes, 8 à Tours, 10 à Dijon, 6 à Toulouse, 9 à Perpignan. 15h03, c'est la suite de l'heure du crime avec vous, Jean-Alphonse Richard.
Merci Vincent de Rosier, on vous retrouve à 16h pour les infos qui comptent sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard.
Jusqu'à 15h30 sur RTL.
J'ai pensé à la famille et à pauvre petite. Parce que franchement, pour faire ça à une gosse, pauvre petite, ah non, c'est vraiment effroyable. Elle a demandé de vivre, quoi, comme tous les enfants. On peut pas faire ça à des enfants, c'est... Je sais pas, moi. Je vous dis, j'arrive pas à y croire.
Dans l'heure du crime, nous revenons aujourd'hui sur la trajectoire de Georges Pouille, arrêté en 2013 pour les meurtres de deux petites filles, Sarah et Saïda, commis plusieurs années auparavant. L'homme n'a pas fait beaucoup de confidences. Son premier procès s'ouvre à la fin de l'hiver 2016. Mercredi 9 mars 2016, Georges Pouille, 40 ans, pénètre dans la salle des assises de l'Isère à Grenoble. Il claudique, séquelle de la maladie dégénérative, la maladie de Steiner qui affecte ses muscles. Il est lourdement handicapé, il se déplace très peu, il a tué des enfants qui lui étaient proches et dont il connaissait la famille, avait indiqué lors de l'enquête le procureur de Grenoble Jean-Yves Coquilla. Pouille est jugé pour le meurtre en 1996 de la petite Saïda Birch. Face à la cour, il se mure dans le silence. « Je n'ai rien à dire », répond-il. Maria, la mère de l'accusé, vient témoigner. Elle dit vouloir révéler à son fils un secret. Elle lui raconte qu'il est né d'un viol et que Pouille n'est pas son vrai nom. « Je lui ai mené une sale vie. Je ne voulais pas de lui. Je lui ai fait payer les pots cassés », raconte la mère. L'accusé a connu une scolarité désastreuse, vécu de petits boulots, de plus en plus handicapé par sa maladie. Il a rencontré Christelle, ils ont eu un fils. Il lui arrivait d'être violent avec sa compagne. Le président demande à Georges Pouille s'il veut dire un mot à sa mère. « Rien à dire, je m'en fous », répond-il. Georges Pouille finit toutefois par raconter sa rencontre fatale avec la petite Saïda. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai mis un coup sur la tête, un petit coup. Je lui ai remis son pull autour du cou. J'ai fait un nœud avec les manches. Elle était consciente, je suis reparti. » L'avocate générale réclame 30 ans de réclusion. « Vous pouvez considérer que c'est une peine à perpétuité, vu l'état de santé de l'accusé. Mais la liberté, cet homme en a joui indûment, injustement, pendant 17 ans, dit la magistrate. » 11 mars, Georges Pouille est condamné à 30 ans de prison. Et à l'énoncé du verdict, la famille de la petite Saïda va applaudir Serge Puyot. C'est un procès qui est court dans le temps. Il n'y a pas beaucoup de suspense sur le fait que Georges Pouille soit coupable. Procès court, mais vraiment chargé d'émotions.
Oui, il y a eu beaucoup d'émotions, effectivement. La famille attendait des explications et Georges Pouille en a donné très très peu. Et il s'est réfugié souvent dans le silence. Mmh. Lorsque, effectivement, on lui a dit qu'il avait avoué quand même lors de sa garde à vue, il a dit que non, c'était les gendarmes qui lui avaient mis la pression. Mmh. Le gendarme, le directeur d'enquête qui est à la barre, il le traite, je cite, de connard. Il dit qu'il s'en bat les couilles. Donc, vous voyez, il a des mots assez forts et assez verts, si je puis dire, pour les enquêteurs. Je me rappelle que le président avait suspendu l'audience. Georges Pouille est revenu et a pris la parole. Il a dit « Je veux revoir mon fils, je ne l'ai pas vu depuis 3 ans. » Et à ce moment-là, le président lui demande « Mais que pensez-vous de celui qui s'en est pris à Saïda, la petite Saïda ?» Et là, il a répondu, Georges Pouille, je cite ses mots, « Il ne mérite pas de vivre. Si on avait fait ça à mon gamin, je l'aurais tué. » Ah oui, alors qu'il parle de lui-même.
Oui, non, mais bien sûr, mais ça, c'est on entend ça parfois dans les cours d'assises avec des criminels de haut vol, effectivement, qui demandent la peine de mort. Il y a des gens qui demandent la peine de mort pour les criminels alors qu'ils ont commis cet acte. C'est absolument hallucinant. Maître Denis Dreyfus, vous êtes à ce moment-là l'avocat de Georges Pouille à ce procès. Il est resté sur ses positions, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, il va rester sur ses positions, il va même être en retrait par rapport aux aveux qu'il a pu passer en garde à vue. Et il va quasiment, ce qui est insupportable pour les familles, et on essaye de le tirer pourtant dans un sens positif vers la manifestation de la vérité, vers la reconnaissance d'humanité, et il va presque dire que finalement il l'a frappé par accident. Mmh. Moi j'ai personnellement insisté sur la complexité de l'être que nous défendions, et la cour d'assises en première instance en a tiré une certaine conséquence, puisque il y avait eu cette reconnaissance de l'altération du discernement. Il a encouru la réclusion criminelle à perpétuité, il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle en première instance par la cour d'assises.
En première instance, parce qu'il a fait appel de cette décision, Maître Dreyfus.
Personnellement, je n'ai pas suivi cette procédure en appel parce que je considérais que la décision qui avait été rendue était extrêmement raisonnable. Et d'ailleurs, la cour d'assises en appel l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, écartant les conclusions de l'expertise psychiatrique sur l'altération du discernement et considérant donc qu'il était pleinement responsable et qu'il devait encourir être condamné à la peine la plus importante.
Oui, c'est-à-dire la perpétuité. Général Daoust, on vous retrouve dans cette heure du crime. On entend ce que disent Serge Pueyot et Maître Denis Dreyfus. On a l'impression que cet homme, et c'était le cas en garde à vue d'ailleurs face à vos collègues gendarmes, c'est une forteresse un petit peu bloquée, ce Georges Pouille.
En garde à vue, on a plusieurs types de personnes qui réagissent différemment. Et on a pu remarquer, alors ça c'est une constante, hein, et là-dessus il y a même des études universitaires, que plus on était intelligent, plus on arrive à parler facilement, parce qu'on sait quand est-ce qu'on est coincé, et qu'on ne peut pas, d'une pirouette, négliger tous les éléments matériels ou autres. Et moins on est intelligent, ou on a des difficultés d'expression, plus on se referme, et on nie l'ensemble, et on le rejette.
Et effectivement, c'est le cas de Georges Pouille pendant la garde à vue, et ensuite, lors de ce premier procès. Parce que le condamné n'en a pas fini avec la justice, un deuxième procès l'attend. L'affaire Georges Pouille, Sarah et Saïda, le tueur sans visage de Vorep. Un psychopathe prêt à passer à l'acte dès qu'il est confronté à une difficulté. L'enquête de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Dortmund, Paris SG, ce soir à 21h sur Canal+ et Canal+ Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com. Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Ça s'est passé sur RTL.
Christelle, êtes-vous surendettée?
Oui, j'ai 47 000 euros de dette. Je vais être expulsée de ma maison. J'attends la décision du juge pour savoir quand.
Lucien, bonjour, mon cher Lucien.
Bonjour. Le cas de Christelle ne peut qu'émouvoir et je me proposais tout simplement de l'aider en reprenant sa dette sur sa maison.
C'est formidable d'entendre ça. J'imagine qu'elle est émue, Christelle.
Je ne sais pas quoi dire. C'est merveilleux. Parce que je suis très, très émue.
Merci à tous pour votre générosité.
Vous allez vous en sortir, Christelle. Croyez-en, la solidarité d'RTL.
Et oui, c'est ça, le vivre ensemble sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 15h30 sur RTL.
Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, l'affaire Georges Pouille, deux petites filles étranglées à Vorep dans l'Isère, condamnées en mars 2016 à 30 ans de prison pour le meurtre de Saïda, 10 ans. Il comparaît deux mois plus tard pour celui de Sarah, 6 ans. Procès à huis clos. Jeudi 12 mai 2016, le tribunal pour enfants de Grenoble reste fermé au public. C'est à l'abri des regards, hormis ceux des avocats, des témoins et des experts, que Georges Pouille est jugé pour le meurtre le 6 avril 1991 de la petite Sarah Siad. Pouille avait 15 ans à l'époque, il était mineur, ce qui explique cette comparution à huis clos. Lors de l'enquête de personnalité, l'accusé avait été examiné par une neurologue et deux psychiatres. Les médecins ont décrit un homme souffrant d'un handicap mental léger. Un psychiatre certifie que Georges Pouille est un psychopathe prêt à passer à l'acte dès qu'il se trouve confronté à une difficulté. Selon cet expert, l'accusé présente une personnalité immature, instable, impulsible, sensible aux frustrations. Georges Pouille, est-il indiqué, présente un trouble grave de la personnalité, une psychose. L'avocat de l'accusé, Emmanuel de Combard, a demandé dès le premier jour la clémence du tribunal. Il met en avant le parcours chaotique de son client, né d'un viol, enfant battu, souffrant d'une maladie neurologique incurable. Un homme qui dit avoir été habité par le diable quand sa route a croisé celle de Sarah. Vendredi 13 mai, le procès est suspendu en raison du malaise d'un avocat. Les audiences reprennent un mois, au mois de juillet. Pouille est alors condamné à 13 ans de prison. Et voilà donc pour ce procès à huis clos avec cette condamnation. Serge Puyot, évidemment, vous n'étiez pas dans la salle d'audience de ce tribunal de Grenoble parce qu'elle était fermée au public et aux journalistes. Mais on n'a rien appris sur le personnage. Il est resté fidèle à lui-même, c'est-à-dire c'est un accident, c'est un accident.
Exactement, muré dans ses certitudes ou ses pseudo-certitudes. Il n'a pas voulu s'expliquer. Il est resté sur ses positions, effectivement, parlant d'un accident. Et donc, il n'a pas évolué par rapport au procès précédent. Il est resté lui-même. Et malheureusement, la famille de la petite Sarah n'a pas eu les réponses qu'elle attendait sur les circonstances de la mort de la petite fille.
Oui, ça, c'est sans doute le plus dramatique. Effectivement, les familles sont toujours là pour avoir des réponses. Mais hélas, il est resté sur ses positions. et n'a pas donné, n'a pas dit ce qu'on pouvait attendre de lui. Général François Daoust, ancien patron de l'IRCGN, j'ai cité les experts, le rapport d'expertise est assez long sur Georges Pouille, qui disent qu'il sans doute il pouvait récidiver. La maladie, on a l'impression, l'a bloqué quelque part, c'est ça ?
C'est ce qui donne cette impression, c'est qu'on a quelqu'un qui a deux fois, à 5 ans d'intervalle, qui a agi sur une impulsion, on sait qu'il a une psychopathie, donc une altération de tout sentiment qu'il peut y avoir vis-à-vis de qui que ce soit, et on se dit, mais pourquoi il ne peut pas passer à l'acte ? Et quand on le voit, la dégénérescence de sa maladie semble être un des facteurs qui a limité la possibilité de récidiver.
Il ne pouvait plus aller très loin, c'est ça ?
C'est ça. Difficulté à marcher, le vélo, c'était plus ce qu'il pouvait faire, donc entraîner quelqu'un et exercer une violence physique jusqu'à tuer, même si c'est un enfant, ça pouvait être très compliqué.
Encore un petit mot quand même, il y a cette histoire d'ADN avec le FNAEG, le fameux fichier des empreintes génétiques, sans ce fichier qui a été créé tardivement, on va dire comme ça, on ne l'aurait pas retrouvé.
Alors, ça a été justement ce qui a manqué au début. On a une trace, mais difficile. Elle a mis du temps à être sortie et comprise et pouvoir être interprétée. Et derrière, on n'a rien pour l'adosser. Mais fichier est créé en 2003. Et je rappellerai que c'est parce qu'il avait fait une infraction routière conduite sous l'emprise de stupéfiants qu'il a été mis dans le fichier. Et c'est à ce moment-là qu'en reprenant les analyses, on peut le confondre.
Maître Denis Dreyfus, alors vous n'étiez pas l'avocat de Georges Pouille à ce deuxième procès, mais vous l'avez suivi évidemment, vous connaissez ce qui a été dit et ce qui s'est passé. On peut dire que votre client, il est resté, ce que disait Serge Pueyot, il est resté enfermé dans son silence avec cette maladie qui le ronge.
Absolument. Il a vécu dans son village, et vous imaginez tout de même la force de caractère qui a dû être la sienne, pour croiser les familles des victimes pendant plus d'une décennie sans rien laisser transparaître, en faisant garder son propre enfant par la famille d'une de ses victimes. Effectivement, une sorte de dédoublement de personnalité, où il apparaissait dans le village comme quelqu'un sans doute d'un peu fragile, d'un peu déboussolé, d'un peu marginal. Lorsque l'ADN a parlé et que la vérité est sortie, c'est effectivement le ciel qui est tombé sur la tête des habitants de Voreppe et de l'agglomération grenobloise.
Maître Dreyfus, est-ce qu'il vous a expliqué un jour pourquoi il est passé à l'acte ? Est-ce qu'il vous l'a dit ?
Non, et c'est un de mes souvenirs professionnels les plus difficiles, dans le sens où l'avocat, il essaye de cheminer avec son client sur la vérité à partir du moment où les faits étaient avérés par les éléments scientifiques et par l'ADN, et que l'on voulait essayer de comprendre le pourquoi de son passage à l'acte. Et j'avoue que je suis resté sur ma faim tout au cours de l'information judiciaire et puis de l'audience. Et je pense que Georges Pouille est parti avec les condamnations qui ont été prononcées avec sa part de mystère.
L'homme prend le chemin de la prison après avoir indiqué qu'on se trompait sur son compte. L'affaire Georges Pouille, Sarah et Saïda, le tueur sans visage de Voreppe. Un jour peut-être, il aura un accident cardiaque, on n'entendra plus jamais parler de lui. L'enquête, aujourd'hui, de l'heure du crime, je vous retrouve tout de suite sur RTL.
14h30, 15h30,
l'heure du crime sur RTL.
Be a
Come Together, vous avez évidemment reconnu les Beatles, comment ne pas les reconnaître, 1969 sur RTL.
RTL.
Hello everybody, it's Ryan Gosling. J'ai eu la chance de voir le film Un petit truc en plus de mon ami Artus. J'ai rigolé énormément et c'est beaucoup de l'émotion. C'est vraiment un super film. Merci Ryan.
Si comme Ryan Gosling, vous voulez découvrir Un petit truc en plus, ça sort aujourd'hui au cinéma. Je vous fais des bisous.
Un petit truc en plus, un film Nutri-Score A. Attention, ce film peut contenir des traces d'Alice Belaïdi et Clovis Cornillac.
Avec RTL. RTL. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, il est à 79 centimes.
Le concombre ?
Eh oui, en ce moment chez Lidl, le concombre est à 79 centimes la pièce.
Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Et le deuxième est à moins 50%, soit 39 centimes le concombre. Ça revient à 1,18€ le lot de deux.
Oh, ils encombrent vraiment pas. On est mal.
Bah, c'est le concombre.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Catégorie 1, Origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Tous les soirs dans RTL Bonsoir, retrouvez Marc-Antoine Lebray dans Lebray.
King News.
Au Brésil, une femme a été arrêtée après avoir emmené en fauteuil roulant son oncle mort à la banque pour tenter de retirer de l'argent en son nom.
Salut les trouducs ! Ah ! Non mais, hé, c'est quoi ce plagiat ?
Mais pourquoi vous dites ça, Jean-Marc ? Je rappelle, vous êtes la peluche de Jeff Panacloc.
Soutirer de l'argent en animant un truc tout mou ? Y a que mon Jeff qui sait faire ça.
Lebray,
King News.
Avec Marc-Antoine Lebray, c'est juste après le journal de 18h sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard.
Jusqu'à 15h30 sur RTL.
Dans l'heure du crime, la trajectoire de Georges Pouille, condamné pour avoir tué à 5 ans d'intervalle deux petites filles, Sarah, 6 ans en 1991, Saïda, 10 ans en 1996. Confondu 22 ans après son premier meurtre, il a toujours répété sans convaincre qu'il avait tué par accident. Lors de l'arrestation de Georges Pouille, sa compagne Christelle avait dit aux gendarmes qu'elle tombait des nues. Elle décrivait alors un homme qui était gentil et avait le cœur sur la main. « Il m'a juste dit un jour que s'il lui arrivait quelque chose, il faudrait que je prenne soin de notre fils. » Christelle a par la suite coupé les ponts avec son compagnon dont l'état de santé n'aura cessé de se dégrader. « Mon client est déjà condamné sur le plan médical. La dégénérescence s'accélère. Peut-être qu'un jour, il fera un arrêt cardiaque et on n'entendra plus jamais parler de lui. » Indiqué à l'issue du deuxième procès, son avocat, Maître de Combard. Les victimes de l'affaire ne sont pourtant pas Georges Pouille, mais bel et bien Sarah Siad et Saïda Berche. L'avocat de la famille de Sarah, Maître Léon Lef Forster, indique « Aucune peine ne peut ramener la victime. C'est un chapitre de 25 ans de souffrance qui se tourne. » Et effectivement, les petites Sarah et Saïda, on y pense dans cette heure du crime, car il faut bien le répéter, ce sont elles les victimes. Il n'y a pas d'autres victimes dans cette affaire que ces deux petites filles qui ont été martyrisées par Georges Pouille. Serge Pouillot, vous êtes notre correspondant RTL à Grenoble, vous avez suivi toute cette affaire. C'est une affaire qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit dans l'Isère, dans cette région de Vorep. Les familles, elles n'ont jamais finalement eu la vérité, elles attendaient qu'on leur explique ce qui s'était passé, mais elles n'ont pas eu un mot de compassion de la part de Georges Pouille.
Aucun mot de compassion, il est resté effectivement très froid face à ces familles de victimes, à ces familles qui ont souffert, hein. Je me souviens du frère de Saïda Berche, qui est venu à la barre expliquer que toute la famille avait été soupçonnée à un moment par les enquêteurs, les trois frères avaient été soupçonnés. Il a semé le chaos au sein de notre famille, a martelé à la barre ce frère, et puis l'avocate de la mère de Saïda, je me souviens, a expliqué que cette maman n'avait plus de vie, qu'elle attendait encore le retour de sa fille alors qu'elle était morte, effectivement, et qu'elle pleurait en silence encore bien après la mort et de sa fille et l'arrestation de Georges Pouille. Donc, véritablement, deux familles détruites qui n'ont eu aucune réponse à leurs questions.
Mais c'est terrifiant ce que vous racontez, Serge Pueyo. Maître Denis Dreyfus, vous avez été l'un des avocats de Georges Pouille. Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui ?
Alors, à l'heure actuelle, il est toujours, bien sûr, détenu. Il le sera longtemps. Je pense que, compte tenu de son état de santé, il risque de terminer ses jours en détention. Mmh. Il est assez recroquevillé sur lui-même et mutique. Pour autant, il a accepté sa détention. Je pense qu'il purge sa peine et que finalement, la justice l'a rattrapé puisqu'il a vécu avec ses crimes de nombreuses années en liberté et qu'il était bien légitime que la justice le prive avec du retard, mais de sa propre liberté.
Oui, effectivement, c'est ce que vous dites est très juste, Maître Dreyfus, le priver de sa liberté, et c'est le cas aujourd'hui. Général François Daoust, ancien patron de l'IRCGN, et puis vous êtes aujourd'hui le patron du centre de recherche de la gendarmerie. Juste un petit mot sur le profil de cet homme. C'est compliqué, j'allais dire, entre guillemets, ses clients à interroger et presque à faire avouer, parce que finalement, il n'a rien dit au final.
Oui, c'est très compliqué, et c'est en ce sens que la gendarmerie a créé, il y a quelques années en arrière déjà, un département des sciences du comportement,
oui.
Justement pour aider les enquêteurs à pouvoir interroger des personnes qui sont plutôt, comme le disait l'avocat, avec un certain mutisme, qui s'enferment dans une tour d'ivoire, et il faut arriver à tirer ce fil pour que, eh bien, ils arrivent à donner au moins leur vérité, pas toujours celle que l'on attend, mais...
Et on est mieux formé à ça, c'est ce que vous nous dites,
oui,
hein, François Daoust. Hein, on a beaucoup progressé.
Oui.
Effectivement, la criminologie et la criminalistique a fait des progrès hallucinants ces dernières années. Maître Denis Dreyfus, je vais terminer cette émission avec vous. Je rappelle que vous avez été l'avocat de Georges Pouille. Le mécanisme Pouille dont on vient de parler, est-ce que finalement on a réussi à le décrypter? Est-ce qu'on sait ce que pense cet homme, comment il fonctionne, ou bien ça reste un mystère?
On peut dire qu'il partira avec son mystère. Fort heureusement, l'ADN a parlé et a permis de faire en sorte qu'il y ait un nom et un visage pour les victimes face à ce qu'elles ont subi. Mais ce nom et ce visage de Georges Pouille demeure un mystère. Et pour moi qui l'ai assisté, je ne vous cache pas que c'est un énorme point d'interrogation et une vraie frustration, parce que au-delà de l'horreur des crimes, ce que l'on souhaite découvrir, c'est le pourquoi, le comment, et sur ces éléments-là, on reste avec énormément de questions.
Merci beaucoup, Maître Denis Dreyfus, Général François Daoust et Serge Pueyo, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Nicolas Godet à la réalisation.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Demain, dans la seule émission radio 100% fait divers, retour sur l'affaire Karine Schaff, lycéenne, 17 ans, tuée dans une forêt en Moselle en 2001. Qui sont ces bourreaux? Tout de suite, Laurent Ruquier, les grosses têtes sur RTL.
RTL.
Bonjour à tous et bon 1er mai, journée chômée ou pas, les grosses têtes vous accompagnent jusqu'à 18h pendant que Laurent Ruquier et ses sociétaires sont partis prendre l'air. On en profite pour écouter ou réécouter les meilleurs moments des grosses têtes. On commence avec une séquence où les grosses têtes évoquent leur QI respectif et forcé de constater qu'elles n'ont pas que de l'humour, ces grosses têtes.
Laurent, pourquoi vous dites qu'elle a un QI de 130? Qui t'a dit que t'avais un QI de 130?
Non mais c'est pas 130, c'est 128.
C'est vrai. Bah, d'où t'as fait ça, où? Sur internet là, là?
Mais tu m'as vraiment pris pour une idiote.
Non,
donc, j'ai fait des tests il y a des années parce que je trouvais parfois
des années
que j'ai... Ça ne bouge pas.
D'accord, alors, pour moi.
Contrairement au poids, ça ne bouge pas. Le QI, tu l'as une fois pour toutes.
Fais-vous le test, Isabelle Mergaux.
Ah mais quand j'étais très jeune, je crois que j'étais en 7e.
Et alors, et alors?
J'ai eu 34.
Non, que... Et j'ai fait mieux.
Non, je pourrais pas te non mais vous savez quoi? Je suis trop émotive. Ah, parce sûr. Que, par exemple, A, B, C, c'est quoi la suite? Et pour moi, c'était D, évidemment. Mais je me dis, c'est trop facile. Donc, je cherchais un truc, une astuce. Enfin, bon, bref.
Quelle astuce vous avez mis après
A, B, C? Je me souviens plus. Attendez, j'étais dans cette... Je vous donne un exemple. Au hasard.
Parce qu'il faut vraiment être conne pour pas mettre D après ABC.
Oui, et ben je trouvais que c'était trop facile et donc voilà.
Elle a mis la culotte, ABC la culotte, elle a mis.
C'est pour que
non
tu
mais...
te...
Je comprends tellement Isabelle, parce que moi-même, qui, vous le savez, suis d'une intelligence plutôt au-dessus de la moyenne, j'avais voulu faire un test de QI dans un magazine féminin, ma femme l'avait réussi brillamment, et j'ai calé à la première question, et donc on en a conclu que j'avais le QI d'une huître.
C'était quoi? Où est le lave-vaisselle?
Non, c'était aussi, c'était des suites logiques.
Écoutez, les meilleurs tests de QI, ce sont encore les questions que je vais vous poser, et on commence, vous connaissez certainement notre tradition, monsieur
j'avais
Vizorek.
J'avais encore plein de trucs à raconter.
Qu'est-ce que vous dites, vous?
J'avais encore plein de trucs à raconter, mais dès que je raconte une petite anecdote qui me concerne, on me coupe.
Qu'est-ce que vous aviez d'autre à raconter?
La question 2, quoi.
Eh ben, eh ben, vous ne le saurez pas, allez-y, posez vos questions.
Après, c'était EFG.
Une citation, donc, pour monsieur Lapenec, qui habite Neuilly, Crimolois, c'est en Côte d'Or, qui a dit « La liberté, c'est un mot qui a fait le tour du monde et qui n'en est jamais revenu. »
Politique ?
C'est quelqu'un qui s'est mêlé de politique, mais on va dire que c'est un habitué hein, de nos citations.
Oh, alors, ce ne serait pas Sacha Guitry ?
Non, 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 bah non.
C'est
non,
français.
Sinon,
ou...
il aurait dit « La liberté, c'est
c'est pas Winston Churchill.
C'est un français dont on parle beaucoup depuis quelques jours, d'ailleurs. Tiens.
Ah. Nicolas Sarkozy.
Mais non.
Il est mort.
Oui, il est mort, Isabelle. Il est mort. Je vous regarde bien quand je vous réponds. Il est mort.
Il est mort de quoi?
Et pourquoi est-ce qu'on en parle?
Il est mort. Regardez le gars qui facilite la tâche. Il est mort parce qu'il était à moto, il est rentré dans un camion. Si vous me demandez, je vous réponds. On va gagner du temps. Attention, plus difficile pour Katia Delgado, qui habite Nandry, en Seine-et-Marne, qui a dit « Si Dieu existait, on n'aurait pas besoin d'y croire. »
Woody Allen ?
Pas Woody mal. Allen, non.
Alors c'est américain, néanmoins.
Ce n'est pas américain.
Alors c'est britannique.
Ce n'est pas britannique.
Alors c'est peut-être français.
Un philosophe.
Alors un philosophe à sa façon, j'ai envie de dire.
Il était belge.
Il était belge.
Non. C'est Raymond DeVos.
Non.
Il n'était pas belge.
Ah non, alors c'est peut-être...
Il n'était pas belge, Raymond DeVos.
Non, il est né à Moucron, mais il n'était pas belge. Voilà, il a été belge pendant 2 jours et demi. Ah zut, c'est celui dont on ne retrouve jamais le nom, c'est ça?
Ah non, 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 c'est quelqu'un que vous connaissez, qui d'ailleurs portait le même prénom que vous, mais c'est vrai qu'il était plus connu sous son pseudonyme, monsieur Gulli.
Illippe.
Illippe, le dessinateur Illippe. Excellente réponse de Philippe Gulli.
Mais c'est pas le meilleur dessinateur du monde, et je dis ça avec tout le respect que j'ai pour lui.
Pas.
Mais c'était, non, ses dessins étaient franchement assez moches. Ben, contrairement à d'autres qui font des dessins, qui font des dessins remarquables.
Oh bah, depuis le temps que tu fais le même, il peut être bien.
Puisque je tiens à notre Belgique, il est vraiment connu chez vous, monsieur Gueluc, monsieur Vizorek.
C'est une énorme imposture. C'est comme Alain Delon au Japon. En Belgique, personne ne sait qui c'est.
Ah, c'est vrai.
Ah, non, mais par contre, Illippe, on l'adore.
Pour Florent Barbera, qui habite Conches-en-Ouche, c'est dans l'Eure, qui, pendant un dîner mondain, dans un moment de silence, laissa échapper un P bruyant, se tourna alors vers une dame très collée montée qui était assise à côté de lui, et lui dit suffisamment fort pour être entendu de toute la table, « Ne vous inquiétez pas, madame, je dirais que c'est moi. »
Churchill.
Non, pas Churchill.
Guitry.
Et c'est Sacha Guitry. Bonne réponse de François-Xavier de Maison.
Vous connaissez cette anecdote? Non,
mais moi, vous savez, il y a des citations de Sacha Guitry que je trouve que... je
trouve mais que c'est quel surfait. Misogyne, quand même.
Pardon.
C'est pas possible.
Non.
Même ses proutes, fallait qu'il les attribue à des femmes. C'est pas possible.
Bon, enfin, écoutez, c'est vrai que c'est toujours gênant quand on fait un P que les
oui,
autres...
Oui, parce que c'est bien, vous trouvez, de faire croire que c'est votre voisine. Bah,
c'est plus rigolo, en tout cas.
Ah,
vous
oui,
voyez.
Elle a du beau courir, madame.
Au contraire, c'est d'une grande élégance. Parce qu'il a dit...
Elle n'a pas compris l'anecdote.
Si, j'ai compris. J'ai compris que c'était lui qui avait pété et qu'il lui fait croire que c'est elle et que par élégance, il s'attribue ça à lui. Donc une fausse élégance. J'ai bien compris. Absolument. Ça.
Je comprends pourquoi t'as eu 35 au test de fait, hein, en fait.
Et je voudrais préciser, pour ceux qui en douteraient, que je n'ai rien à voir avec ChatGPT.
Alors, je suis très inquiet parce que mes amis de France Inter vont m'appeler après.
Oui.
Et je vais leur dire, ils m'ont demandé qui a pété sur RTL. Je suis très inquiet.
Oh bah, ce qui a pété, c'est votre émission.
15h30, 18h, les grands moments des grosses têtes sur RTL.
Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option. Quand son destin se joue en deux matchs. Qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe. Le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Dortmund, Paris SG, ce soir à 21h sur Canal+ et Canal+ Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com. Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Vous voulez des essuie-glaces gratuits ? C'est en ce moment chez Carglass. Et oui, jusqu'au 10 mai, si vous faites réparer votre impact ou remplacer votre pare-brise, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glaces Bosch. Vous avez bien entendu, vos balais Bosch gratuits. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, prenez rendez-vous sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr.
RTL Matin, l'angle éco.
Les grandes entreprises internationales ne cessent de grossir, François, au point qu'elles représentent maintenant des forces économiques considérables dans nos pays.
C'est vrai, prenez LVMH, le numéro 1 mondial du luxe. C'est aujourd'hui la première capitalisation boursière en France, de très loin. LVMH exporte aujourd'hui davantage que toute l'agriculture française.
L'angle éco à 7h35.
Une question pour Guy Le Querec, qui habite Saint-Jean, en Haute-Garonne. Question mythologique. Comment s'appelait le roi des orfèvres à qui Denis l'Ancien proposa de prendre sa place le temps d'une journée?
Saint-Éloi.
Saint-Éloi, non.
Le roi des orfèvres.
Midas. Non. Midas.
Dans la mythologie grecque ou romaine?
Dans la mythologie grecque, monsieur.
Et du coup, comme c'est le roi des orfèvres, est-ce qu'il a un nom qui est en rapport aujourd'hui avec la bijouterie?
Non,
ce
la
serait
bijouterie.
Pas Héphaïstos.
C'est pas Midas?
Midas.
C'est
non.
Pas Héphaïstos.
Carglass?
Non. Alors vous avez là un tyran.
Zolotas?
Non. Un tyran qui s'appelle Denis l'Ancien.
Oui.
Tyran grec de la colonie grecque de Syracuse, vous voyez.
J'aimerais tant voir.
Oh là là, mais ta gueule, toi maintenant.
Il est de Pâques.
Oh le pansement, mon Dieu!
Mais vas-y,
nos amants de Vérone. À partir de maintenant, tu parles plus comme ça, c'est ma gonzesse. Oh, il y a mal au cœur. Bon, quoi ? C'est vrai !
Merci, mon chéri.
Ben oui, il n'y a pas de mon chéri, appelle-moi monsieur. Dans les...
Comment s'appelait donc le roi des orfèvres à qui Denis l'Ancien proposa de prendre sa place?
Christophe!
Non, le temps d'une journée. En fait, s'il a fait ça à Denis l'Ancien avec ce roi des orfèvres, c'est parce qu'il voulait qu'il comprenne que sa situation n'était pas si simple. Qu'être un tyran, c'était pas si facile, vous voyez.
Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile.
Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, elle est une femme libérée. Tu sais, elle c'est pas si facile.
Mais c'est la chanson la plus moderne que vous ayez jamais chantée.
Oh, elle date de 83 quand
jamais
même.
Jamais vous n'étiez remonté jusqu'en 83, t'as Pierre.
C'est incroyable, maintenant il chante en couleur.
C'est pour trouver,
est-ce qu'il y a ce roi des orfèvres, il est connu pour autre chose.
Ah oui, il est connu à cause.
Il est dans une expression.
À cause d'une expression.
Qui veut dire faire une pause, faire
oui,
un
c'est
break.
En Molière, il y avait vous. Vous êtes orfèvre, monsieur Antel.
Ça a à voir avec le nœud gordien.
Non, pas le nœud gordien. Alors, je vous mets dans la situation.
Joseph Lequet.
Vous avez un tyran, là, hein, qui s'appelle Denis l'Ancien.
Oui.
Il est là, il est
très méchant.
Il est à Syracuse, vous voyez.
J'aimerais tant voir Syracuse.
Et puis, bah, il se dit, tyran, c'est pas si facile. On est tyran comme ça un jour. Non, on croit qu'on va être tyran toujours. Mais non, vous pouvez tomber. Un jour, vous voyez.
Donc c'est une histoire de chute,
de risque. Et il dit à son roi des orfèvres, tiens, prends ma place une journée, tu vas voir comme quoi c'est pas si facile.
Siège éjectable?
Non.
Attends.
C'est un synonyme de siège éjectable.
Je dis non, en plus, comme s'il y avait un mec qui s'appelait siège éjectable.
Bien sûr.
Ça peut arriver. Strapontin.
Strapontin, non.
Dans une
ça a une consonance grecque.
Ça a une consonance grecque,
donc
oui.
Donc c'est une expression qui signifie...
prendre la place.
Vas-y, prends ma place, tu vas en chier.
Ça veut plutôt dire, si tu prends ma place, tu verras ce que je vis, c'est pas si simple.
Bon, monte là-dessus, tu verras Montmartre.
Tu te rendras compte, quoi, c'est ça.
Eh oui,
tu vas réaliser.
En gros, hein, c'est pas facile de vous aider, j'essaye.
Alter ego?
Non, pas alter ego. Parce qu'il faut dire que le tyran Denis avait organisé les choses pour que le roi des orfèvres se sente un peu mal à l'aise.
C'est tu l'as dans l'os.
Non.
Si tu veux. Mentos?
Non, pendant la. Mentos. Pourquoi Mentos?
Je sais pas.
Aliagas?
Nikos?
Pendant la journée pendant laquelle le tyran a laissé sa place à ce roi des orfèvres, dont le nom est très célèbre, eh bien, et à un moment donné, ce roi des orfèvres, il a bien compris que c'était pas si facile, il a eu peur.
Tantale?
Non, Tantale.
Est-ce que
non.
C'est un nom typiquement grec?
Ah oui.
Et ça signifie la peur.
Alors, la peur, oui.
Foiros?
Non.
Phobos?
C'est plus subtil que la peur, vous voyez.
La crainte.
Un plantos.
Ça, c'est bien, la crainte.
Craignos.
Non.
Thanos.
Non. Mais c'est vrai que là,
Fouettos.
Non, vous voyez.
C'est en os.
Flippos.
C'est pas en os.
Florian Philippos.
Dionys.
Non, Denis.
Trachis.
Non, Denis le tyran, il a dit, vous voyez, à son orfèvre, vous voyez, là, on vit sous la crainte. Hein.
Aujourd'hui, ça veut dire, on dit, on fait son machin et...
Jetons.
Et là, il a bien compris, machin, que...
Ça signifie la crainte. L'appréhension.
Exactement.
Est-ce qu'il y a beaucoup de syllabes?
Oh, il y a 3 syllabes.
Ok, bon, déjà, ça progresse.
Mais c'est une expression fort connue.
Fort connue.
Je veux trouver.
Ah, monsieur Bénichou nous signale qu'il va trouver, il fait sa Caroline Diamant. Attention, c'est parti.
Alors, par exemple, faire sa Caroline Diamant, c'est ne pas trouver de réponse.
Non, mais crier oui.
Alors, attends, 3 syllabes. Est-ce que c'est utilisé comme...
Abimus.
Il vivait dans un château, hein, Denis l'Ancien.
C'est utilisé comme...
Cerné d'une fosse, sans cesse sous la surveillance de nombreux gardes, vous voyez. Il avait toujours des courtisans autour de lui. Et puis, pressentiment, non, mais on est tout près, évidemment. Aïe.
Appréhension.
On ne cessait de le flatter. Il avait...
Flatos?
Non.
Flatulos?
Flatos.
Et un jour, le roi des orfèvres, dont je ne vous donne pas encore le nom, je vais vous le donner dans un instant, lui dit, qu'est-ce que vous avez de la chance, monsieur le tyran? Et le tyran lui dit, mais non, prends ma place une journée, tu vas voir un peu.
Absodos?
Non, alors...
Hippocritos?
Non, alors il prend sa place une journée, et au milieu du festin, parce qu'il y a un festin, celui qui a pris la place du
Gavé.
Tyran... Non, il est la tête. Et qu'est-ce qu'il voit au-dessus de sa tête?
Une épée.
Ah, la Damoclès.
Eh oui, Damoclès. Oh. Car en effet, la fameuse épée de Damoclès, c'est le nom de celui au-dessus de la tête de qui on avait mis une épée pendant toute la durée du festin pour qu'il sente que c'était pas si simple, qu'on était toujours en danger à ce poste-là.
On aurait pu trouver.
L'épée de Damoclès, 300 euros.
RTL, les grands moments des grosses têtes.
Il y a une ombre sur le tableau, pourtant le soleil brille bien beau. Tout est cool, tout est beau. C'est l'été sur la terrasse, oui mais le mal qui le terrasse est indifférent aux saisons. Il était beau, on a beau dire, servait ses cafés grand sourire, tout le monde était content, faut croire. Il était tellement tranquille, qui aurait imaginé qu'il portait un monde sur le dos. Mais qui aurait pu deviner qu'un jour il ait dû renoncer à chanter. Le sang est libre, la voix est là, juste devant toi. Le sang est libre, si tu veux vivre plus fort que ça, chante avec moi. Pas une ombre sur le tableau, photo de famille sur le bureau, tout roule et tout est beau. L'ascenseur au dernier étage, chef d'entreprise dans sa cage, toute seule au-dessus des nuages. Raide du monde, on a beau dire, parfois qu'elle a du mal à rire, mais elle gagne bien sa vie, faut croire. Le prix de l'infortune que parfois les rêves importunent quand elle fredonne dans les couloirs. Elle était tellement sereine, qui aurait imaginé qu'elle portait un monde sur le dos.
imaginé qu'un jour elle ait dû renoncer à chanter le chant. Il y a une ombre sur le tableau, pourtant le soleil brille bien haut. Tout est cool et tout est beau.
C'était Patrick Fiori, Le Chant est libre, le premier extrait du nouvel album de Patrick Fiori sur RTL.
Maria Franca Fisolo règne en Italie. C'est une milliardaire très secrète et très catholique. Et pourtant, vous ne connaissez pas forcément son nom. Franca Fisolo est la plus grande fortune d'Italie. Une femme richissime à 74 ans, veuve. C'est ainsi qu'elle a hérité de l'Empire. Quel Empire ? Un patrimoine de 19 milliards d'euros. 22 usines, 37 000 salariés dans 53 pays.
Fiat.
Fiat, oui.
Non.
Ferrari ?
Non.
C'est alimentaire.
C'est qui se mange. C'est une grande marque, en tout cas.
Sont des vêtements.
Sachez qu'au départ, elle avait 55 ans quand elle a été engagée comme secrétaire, simplement.
Ça se mange.
Avant d'épouser le patron.
Armani.
Armani, non.
Gucci. C'est du luxe ?
C'est pas du luxe. C'était une blonde, discrètement bijoutée. Ouais, elle a toujours refusé de rencontrer la presse. Parce que c'est vrai qu'au départ, on a quand même dit, ah là, c'est la secrétaire qui a épousé le patron.
L'ambitieuse.
Et Total, une fois veuve, la voici la plus grande fortune d'Italie. Elle a 74 ans, Maria Francesca Fisolo.
C'est un parfum ?
Ah non.
C'est le bateau, c'est Costa.
Costa.
30e plus grande fortune à l'échelle mondiale, première fortune à l'échelle italienne.
C'est un objet qu'on a chez nous ?
Ah oui, ça sûrement.
Ah, c'est un objet qui se vend encore dans
la cuisine. C'est pas seulement un objet, hein.
C'est dans la cuisine.
Oui, c'est dans la cuisine.
Ah, c'est dans la cuisine. C'est quoi, du café ?
Non.
C'est lié aux pâtes ?
Aux pâtes, non.
Nespresso ?
Non.
Double vitrage ?
Non.
Bah, moi, j'ai ça dans ma cuisine.
Des cuisines équipées.
Non.
Un ustensile ?
Elle est la 4e femme la plus riche de la planète. Elle est évidemment au coude à coude avec l'américaine Jacqueline Mars, qui est l'héritière, elle, des barres chocolatées.
C'est Ferrero ?
Et c'est l'héritière de l'Empire de Nutella, Ferrero. Mais... Bonne réponse de Florian Gazan. Eh oui. L'héritière Nutella, la veuve Ferrero, Maria Franca Fisolo, 74 ans. Elle a pourtant commencé comme secrétaire dans les usines Ferrero. C'est fou, vous rendez compte un peu. Ouais. Ferrero, c'est pas seulement Nutella, hein. C'est aussi Kinder Bueno, c'est Tic Tac, c'est Mon Chéri. Vous dire qu'elle pouvait bien l'appeler Mon Chéri à ce prix-là.
Ouais, les dîners de l'ambassadeur, elle les a rentabilisés. Hein.
Mais vous vous rendez compte un peu. Vous la connaissiez pas, Pierre Ménichon ?
Non, même pas son nom.
Elle est obèse.
Je savais que c'était une des plus grosses fortunes, était dans l'alimentaire. Oui.
Est-elle obèse ?
Pourquoi vous dites ça ?
Bah, savoir si elle mange ses produits.
Ah non.
Ce Nutella, ça colle aux cuisses quand même.
Vous savez, pour que le patron s'intéresse à vous, il n'y a pas intérêt d'être une secrétaire obèse. Il y a plutôt
oui, ben, à l'époque,
une secrétaire qui baise. Hein.
Jusqu'à 18h, les grands moments des grosses têtes sur RTL.
Hello everybody, it's Ryan Gosling. J'ai eu la chance de voir le film Un petit truc en plus de mon ami Artus. J'ai rigolé énormément et c'est beaucoup de l'émotion. C'est vraiment un super film. Merci Ryan. Si comme Ryan Gosling vous voulez découvrir Un petit truc en plus, ça sort aujourd'hui au cinéma. Je vous fais des bisous. Un petit truc en plus, un film Nutri-Score A. Attention, ce film peut contenir des traces d'Alice Belaïdi et Clovis Cornillac.
Avec RTL. RTL.
On vous écoute, mademoiselle.
Merci, monsieur Géniaud. En ce moment, pour l'achat d'une véranda Rénoval, la TVA est offerte. Ma véranda, c'est Rénoval.
Point final.
Conditions sur Rénoval.com.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite. Oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer. Oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie. Avec AG2R, la mondiale, constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur AG2R. AG2R-LaMondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
Chez Poltrone Sofa, la qualité se voit, mais surtout, elle se ressent. Caressez le cuir du canapé Bormida et détendez-vous avec son relax électrique.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1184 euros.
Venez les ressentir en magasin. Poltrone Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, dans RTL Matin.
Demain, 2 mai, je vous parlerai de l'issue d'une bataille héroïque, celle de Masada en Judée. C'était le 2 mai 73 après Jésus-Christ. Masada, will never fall again, pour ceux qui connaissent.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, avec Laurent Deutsch, tous les jours à 7h20.
À demain.
RTL, les grands moments des grosses têtes.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Journal du matin, les nouvelles sont mon reste, tout qu'elle vient. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. En déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix.
Déjeuner en paix, Stéphane Echer sur RTL.
Je vais essayer de baisser le niveau, parce que quand le niveau est trop haut, monsieur Benguigui trouve. Alors, je vais poser une question à la portée de tout le monde. Pour Mathieu Chavanel, qui habite Chalifère, en Seine-et-Marne, quand vous rentrez dans une pâtisserie vendéenne et que vous voulez réclamer un flan de la région, que devez-vous demander?
Un flan.
Un Queen Anne-Man.
Non.
Un broyer.
Un broyer, non.
Une gâche,
la gâche,
c'est la brioche.
Non.
Un pénone.
Un pénone, non, mais on se rapproche.
Un pet de curé.
Non.
Un puits sans fond.
Pardon.
Un puits.
Non, non, non. C'est un flan aux œufs.
On se rappelle d'un, on rapproche d'un pet.
Ah, c'est un flan aux œufs parfumé.
Un bastinéis.
Un prout. Un mélange d'œuf et de lait.
Ah oui, 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 c'est le fion.
Le fion. Bonne réponse.
Ah oui, on n'était pas loin.
Comment vous connaissez ça, ma fille ?
Si, c'est connu, le fion.
À votre avis ?
J'ai voulu faire un cadeau à Beaugrand.
C'est le mot qu'il prononce le plus.
non, mais c'est vrai, c'est connu.
Mais en Vendée...
C'était l'anniversaire de Beaugrand, j'ai dit, qu'est-ce que je lui amène ? Qu'est-ce qui lui fait plaisir ?
Non, mais tu rigoles, mais j'ai déjà mangé...
Veux-tu manger mon fion ?
J'ai déjà mangé un fion, et c'était très bon. Non, mais c'est
Laurent, c'est pas bien. Vous dites, je veux élever le niveau.
Non, justement.
Non, justement,
là, je l'ai rebaissé parce que quand je pose des questions sur le nain, sur Soutine, eh ben, monsieur Benguigui trouve trop rapidement.
Il trouve pas le fion. Jean.
Donc, je me suis dit, tiens, je vais poser une question à la portée de Baffy et de Beaugrand, vous voyez.
Ben, c'est gentil.
Allez, on enchaîne avec la tarte aux couilles.
Mais c'est vrai que ça doit faire drôle de
bouffer un fion.
Non, bouffer un fion.
Non, mais ça devrait être interdit de rentrer dans une boulangerie et de demander un fion.
Imaginez monsieur De Villiers, qui est quand même le symbole.
Oui.
Le symbole de la Vendée, vous voyez.
Monsieur Ruquier n'a aucun respect, monsieur Ruquier, pour toute mon histoire. Croyez-moi qu'une fois que monsieur Zemmour sera élu, vous serez puni. Vous serez au cachot, jeté dans les geôles.
Le fion, c'est un peu le puits du fou, quoi.
Alors, imaginons la scène, vous voyez.
Oui.
Vous faites la pâtissière, Caroline, d'accord ? Alors, moi, je fais la petite musique de la porte qui fait gling, gling, et monsieur De Villiers rentre dans la...
Et c'est une porte gay, pardon.
Gling, gling.
Les
boulangères pâtissières,
hein,
elles ont des voix très aiguës.
Parce que chez nous, ça fait glung glung. Ça sonne avec des couilles. Chez vous, c'est glung glung.
C'est drôle ce que vous dites.
Très ouvert.
Il y a des fions, hein.
J'ai pas fait glung glung.
Ah si, si,
j'ai fait glung glung.
Vous avez fait glung glung. Non, si, vous avez fait un peu glung glung.
Non, j'ai fait glung glung.
Non.
Vous avez fait glung glung.
Mais c'est vrai, pardon, mais quand vous rentrez dans une boulangerie, ça fait pas gling gling.
Ah, ça fait quoi ?
Ça fait gling gling.
Voilà. Là, c'était plus viril déjà.
Bon, alors.
Allons-y.
Donc, je fais gling gling. Monsieur De Villiers rentre dans la boulangerie. Enfin, pas dans la boulangère, dans la.
Dans la boulangerie.
Boulangerie.
Dans la boulangerie, pâtisserie, et il va demander pour la famille un fion. Alors, allons-y. Gling gling.
Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
Vous m'en connaissez ?
Ah, bien sûr, ça fait plaisir de vous voir.
Vous êtes déjà allé, puis du fou, hein ?
Oui, bien sûr, bah, vous savez, quand on habite la région... Hein.
C'est normal.
C'est vous qui avez pris des têtes de nègre la dernière fois ?
Vous avez des têtes de nègre, c'est vrai, ça. On aimait bien ce gâteau.
Vous mets, monsieur De Villiers ?
J'aimerais bien que vous me mettiez votre plus beau fion.
Alors,
préparez-le.
Alors, je voudrais un fion pour deux ou un fion pour quatre.
Je voudrais un fion pour huit. Nous sommes
alors,
en famille.
Je vais être obligé de vous mettre deux fions pour quatre.
Eh bien,
parce que j'ai plus de fions pour huit.
C'est vrai que ça doit être surréaliste, les conversations.
Mais dites-moi, il est bon votre fion. Qu'est-ce que vous mettez dedans ?
C'est mon mari qui l'a fait. C'est le meilleur fion de la région.
Mais, madame la boulangère, qu'est-ce que vous mettez dans votre fion ?
Des chocolats.
Alors, il faut savoir que pour faire des fions, il faut des moules à bord très haut.
Oui, il faut choisir. Moules. Et pour faire des moules, il faut des fions à bord très haut.
Des moules à bord très haut.